tu sais, dans une petite communauté, tu deviens rapidement quelqu'un parce que il s'agit que tu sois au terrain de jeu, que tu sois engagé un peu. Tu as un lien avec beaucoup de gens. Fait que, tu sais, c'est tout ça. Moi, je pense que tu sais ce que je suis aujourd'hui. Mm-hmm. Tu sais, d'être entouré, tu sais, de gens, des adultes colorés. Il y en avait.
C'est après.
Ouais, moi, quand j'écoute Fred Pellerin, là, son univers m'interpelle énormément parce que on dirait qu'il parle de chez nous.
Ah.
Ouais.
Bon matin tout le monde, bienvenue à nouvel épisode du No Show. No Show, encore une fois, commandité ce matin par Will Talk Café, mes bons amis chez Will Talk Café. Saint-Ours, si vous ne connaissez pas encore ce café-là, c'est un must. C'est un must. Côté qualité, côté service, côté goût, côté fraîcheur, nommez-les toutes. Plus de détails, willtalkcafé.com, hyper facile, sont hyper friendly, service partout au Québec. Ce matin, j'ai avec moi le ministre de l'Environnement en 1986, à l'âge de 12 ans, M. Steve Brunel.
Salut Sébastien.
Comment ça va, Steve?
Ça va très bien. Merci pour le café, sérieusement.
Ça fait plaisir.
Moi, je vais aller voir tes amis parce que c'est vraiment très bon ce matin.
Un petit café de l'Équateur ce matin.
Pas vrai?
Oui, café Équateur de Wilter Café. En cappuccino ce matin.
Ah, tu sais, l'espèce de petit matin où là, tous tes sens sont allumés. Mais merci de me recevoir, Sébastien. C'est vraiment, puis le café, ça met bien la table.
Ben content, bien content. Steve, je suis bien efface que tu étais le ministre de l'Environnement en 1986 à l'âge de 12 ans. Mm-hmm. Aujourd'hui, 2022,
Ben, je m'appelle Steve Brunel, j'ai 47 ans. Pour mon travail, je travaille à la SADC, donc c'est Société d'aide au développement des collectivités de Nicolet Bécancour. J'y suis depuis 20 ans. Moi, je suis un gars de la place, je suis un petit gars de Sainte-Cécile-de-l'Évrard qui a grandi dans un environnement hyper stimulant. Mes parents sont entrepreneurs. Aujourd'hui, mon père est maire de la communauté de Sainte-Cécile. Et rapidement, dès l'enfance, nous, on était mis en contact avec des gens de la communauté. Et je pense que c'est mon ADN.
Puis, Adon, peut-être, là, c'est peut-être une coïncidence que tu sois ici ce matin, mais c'est de ça qu'on va parler le matin.
Ah, ben oui, j'adore ça.
C'est moi une coïncidence. Toi.
Puis à la SADC, dans le fond, moi, je suis gestionnaire, je suis directeur de l'organisation depuis 2008. Mais j'ai été agent de développement dans les premières années, 2002 à 2008.
OK, fait que ça fait quand même 20 ans, comme tu étais dans ce milieu-là.
Oui.
Je faisais des farces, mais c'est un petit peu ça. Ce matin, on s'est parlé, tu sais, il y a peut-être un mois et quelques de ça, plus ou moins. On s'est lancé l'idée de parler un petit peu de ruralité, de mobilisation citoyenne.
Ouais.
Puis Steve, c'est le gars parfait pour ça. On a parlé un petit peu en intro. Yann a parlé en intro. Son expérience avec le temps a fait sa place finalement. Mais j'aimerais ça que tu nous expliques, Steve, c'est quoi l'impact vraiment? Tu sais, tu me dis que c'est dans ton ADN, mais pourquoi? Mm-hmm. C'est quoi la mobilisation citoyenne, première des choses? C'est quoi la ruralité? Comment qu'on peut l'appliquer sans l'être à 100%? Là? Le but aujourd'hui, on va le dire tout de suite, là, à tous ceux qui vont penser qu'on est là pour faire du brainwash, c'est pas le but. C'est pas le but du tout.
Ah, pas du tout.
Mais comment qu'on peut appliquer ça? Comment qu'on peut ouvrir les yeux un petit peu plus? Comment toi, comme je dis, ça t'a... quand est-ce que ça a vraiment frappé ton ADN, comme tu dis?
OK. Ben, en fait, effectivement, c'est bon, mais je vais y aller par étapes. C'est sûr que tu parlais de brainwash, moi, je ne suis pas là-dedans du tout, parce que je pense que le milieu où tu choisis de vivre, c'est un milieu dans lequel tu te sens bien. Il y a des gens qui vont se sentir étouffés dans la grande ville, et il y en a qui c'est tout le contraire, qui en campagne, pour différentes raisons, vont se sentir pas à leur place. Comme on expliquait, moi, j'ai eu la chance de grandir dans un village qui s'appelle Sainte-Cécile-de-l'Évrard, qui est un village qui était... C'est serré. C'est des gens qui, on se connaissait tous, hein, évidemment, avec 600 citoyens là, dans les années... Moi, je suis né en 74, donc 74-80. C'était des communautés de c'est serré, c'était des familles, en fait.
Oui, puis il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, quoi que ce soit. Fait que, tu sais, c'était local, comme tu dis. Là.
Tout à fait. Puis mes parents ont un commerce à Sainte-Cécile, puis ça s'appelle le Centre des viandes de la région. Donc, nous, rapidement, on est devenus en lien avec des gens, non pas juste de Sainte-Cécile, mais vraiment de tous les villages alentours. Puis, évidemment, cette proximité-là avec les gens font en sorte que tu découvres ton village au-delà de la géographie. Mm-hmm. Il y a des humains qui y vivent. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais où tu as eu le déclic. En fait, le déclic, moi, je pense que je ne l'ai jamais eu. Je l'ai toujours su
tu l'as eu, ouais.
que j'aimais cet environnement-là. Je me souviens cependant, j'ai habité à Montréal 3 ans. J'ai pas trop aimé ça parce que, puis tu sais, ça, c'est une question de tempérament, ah ben je oui, pense. Oui. Là, je trouvais ça super intéressant d'avoir une vie culturelle foisonnante, d'avoir accès à de la nourriture ethnique, là, ce qu'on avait peu à l'époque, dans les années, début des années 2000, dans le coin. Mais l'espèce de proximité, de connaître ton voisin, d'aller à l'épicerie, de reconnaître des gens, bien ça me manquait. Mais en fait, quand je suis revenu de Montréal, on a fait au terrain de mes parents un gros party de cousins. Okay. Et j'ai une de mes cousines qui est arrivée avec un de ses chums, puis lui, il avait jamais connu autre chose que la ville. Donc, quand il est arrivé à Sainte-Cécile-de-Lévard, il m'a dit, écoute donc, tu vis dans un trou. Puis, ben, ça m'a pas heurté. Puis, c'est drôle parce que j'ai répondu tac au tac. Je dis, t'appelles ça un trou parce que tu connais pas les gens. Si tu connaissais les gens qui habitent ici, t'appellerais peut-être pas ça un trou. Parce que moi, j'ai jamais senti que je vivais en campagne. Est-ce que c'est d'innocence? Peut-être, je sais pas. Mais ben, j'ai toujours senti que c'était un privilège. Moi, la 218 là, qui mène de Saint-Pierre jusqu'à Sainte-Sophie-Lévard, quand je suis sur cette route-là en auto, là, je me sens rempli, un peu comme à la couleur de ton café. Oh. Je me sens rempli. Je trouve que c'est beau. En fin de semaine, je suis allé chez mes parents. Je trouve que les plaines sont majestueuses. C'est probablement très affectif. C'est peut-être émotif. Peut-être. Mais cet environnement-là, dans lequel, parce que moi, j'ai un frère et une sœur, on a grandi les trois dans cet environnement-là. On était super privilégiés parce qu'on était entourés de gens de grande qualité et qui nous donnaient un rôle dans cette communauté-là. Mm-hmm. Donc, ça, c'est hyper fascinant, surtout quand tu es enfant. Là.
Ben oui, ben oui.
Et puis, ben, le petit gars, je pense qu'avec la gang secondaire, nous, ça fait 30 ans cette année qu'on a terminé l'école secondaire. Puis, on se voit.
À Saint-Pierre-le-Béquet,
à Saint-Pierre, oui, à l'école secondaire. C'était vraiment nice ça, parce que c'est une école, une petite école. Mm-hmm. On était à l'époque, comme à Sainte-Cécile, on était, je pense, 600. À l'école de Saint-Pierre, mais on se connaissait tous.
Ben oui, mais oui.
Et là encore, c'était facile de trouver une place à l'intérieur d'une petite école. Tu sais, moi, je me rappelle, en 6e année, mes parents m'ont dit, « Hey, tu voudrais-tu aller à l'école privée? »
OK.
Puis on avait regardé les Claretins à Victo, on avait regardé le séminaire à Trois-Rivières. Moi, je suis l'aîné dans ma famille. Okay. Donc là, j'ouvrais la voie à un potentiel dynastie d'école privée. Et puis si j'ai pleuré, Sébastien, moi, je ne voulais pas. Moi, je voulais aller à Saint-Pierre. Mes amis y allaient. Il y avait quelque chose d'identitaire, peut-être. Il y avait aussi, il faut dire, à l'école secondaire, beaucoup d'activités qui m'attiraient. Il y avait des équipes de basketball, il y avait à l'époque, il y avait une troupe musicale qui s'appelait la troupe Les Seigneuries. Moi, j'étais musicien. Fait que c'est sûr que dans ma tête, là, ça annonçait que l'école secondaire, c'est là que je voulais aller. Mm-hmm. Puis probablement que j'aurais eu du plaisir au séminaire au Claretin.
Ultimement, oui.
Mais je suis content d'être allé à l'école à Saint-Pierre parce que tout à l'heure, tu parlais du sens commun, le sens collectif. Mm-hmm. Et là, je fais tout et dans tout. Là. Je te ramène à ce qu'on voulait jaser au départ, c'est que dès ma petite enfance, je me suis aperçu que le faire ensemble, travailler pour le bien de la collectivité, j'ai retrouvé ça rapidement à Saint-Pierre-les-Béquets à l'école secondaire.
Ben oui, ben oui.
Parce que c'était facile de se trouver une place dans des comités, d'avoir un rôle qui, somme toute, te donnait aussi des outils comme adolescent.
Ben oui.
Parce qu'au basket, c'est super. D'abord, on n'a jamais gagné au basket. On avait du plaisir, là, mais on n'était vraiment pas bon. Mais ce qu'on a gagné, par exemple, c'est quand on était dans différents comités, on a monté des projets hyper intéressants. Il y avait à l'école aussi, comme dans Sainte-Cécile, des adultes significatifs qui nous donnaient des outils, qui nous laissaient nous essayer, okay. Se tromper. Puis ça forme probablement l'être humain qu'on est devenu d'un environnement familial très collectif où, tu sais, mes parents étaient en affaires, mais c'était des gens qui ont toujours eu le sens de la communauté.
Okay.
Tu sais, il était impliqué dans des organisations. Mon père a été président des loisirs à 16 ans. Tu sais, il y a comme une espèce...
Le fils qui est ministre de l'Environnement à 12, ouais. Le père à 16 ans, ouais. Tu vois que ça coule dans vos veines.
Oui, on se ressemble trop. Des fois, c'était peurant, mais tu sais, je suis fier de lui. Tu sais, quand tu es adolescent, tu veux prendre tes distances et dire « je veux pas t'en ressembler à mon père », mais avec force de constater qu'en vieillissant, je dis, tabarouette, il y a beaucoup de lieux communs, mais probablement, puis ma mère, c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Fait que j'ose croire qu'il y a comme une espèce de jumelage des deux qui se sont incarnés. Puis, tu sais, dans cet environnement-là, à Sainte-Cécile, à l'école secondaire à Saint-Pierre, si on demandait à mes amis de l'époque, que je vois toujours d'ailleurs, dire comment il était Steve au primaire, au secondaire, mais probablement que j'ai une version minuscule de ce que je suis devenu, minuscule en termes de grandeur,
oui.
Dans le sens où je pense que j'ai pas tant changé.
Ça, vois-tu, je suis d'accord avec toi parce qu'on ne change pas, on va évoluer. On va, tu sais, on en parlait tantôt avant le podcast, comment que toute la consommation, toutes les façons de travailler, de communiquer, comment tout a changé dans les deux dernières années pour, on sait quoi, on vient de parler pourquoi, mais tu sais, on sait que ça a changé, mais tu sais, c'est toujours une question d'évolution. Mais effectivement, je pense qu'on ne change pas. Moi, c'est la même affaire. Quand j'étais jeune, ma mère, des fois, elle n'en revient pas. Où est-ce que je suis rendu dans le sens que podcast, radio, vidéo, tu sais, elle dit, tu sais, avant, tu parlais pas, tu étais timide.
Ouais,
j'étais plus timide. Je prenais plus mon trou, mais en même temps, là, on parle de jeune. Quand j'ai commencé à vieillir, puis à rendu au secondaire, justement, j'ai commencé à prendre ma place. J'étais plus un leader tranquillement, pas vite. Mm-hmm. Mais j'ai toujours été un gars qui observait beaucoup.
OK.
Un gars qui regardait, qui observait. Puis on dirait que j'ai comme, j'ose penser que ça a été ma façon de faire quand j'étais jeune. J'ai vraiment regardé, j'ai observé. J'ai comme pris mes notes de ce que je voulais pas. Tu sais, tu parles tantôt de. J'en ai parlé avant. Moi, mon père, c'est la même affaire. J'ai eu un côté de OK, je veux faire ce que lui fait. On dirait que j'étais longtemps à regarder ce qui se passait. Puis quand j'ai fait OK, je suis prêt. OK, j'ai mes culottes de grand garçon, je fonce. Là, j'ai commencé à. Au basket, au baseball. J'ai commencé à être plus le leader des gangs, entre guillemets. Là, tu sais. Puis regarde, voici aujourd'hui. Fait que je suis d'accord avec toi que tu as grandi, mais on ne change pas tant. On va évoluer, on va s'adapter, on va s'améliorer parce que tu sais, quelqu'un qui ne s'améliore pas, qui ne s'adapte pas, à mon avis. Il y a un problème?
Tout à fait.
Mais tu sais, c'est ça, je suis d'accord avec toi, le côté. Puis où est-ce que je voulais aussi en venir? C'est que, est-ce que c'est le côté peut-être de l'identité? Tu sais, je veux pas le fait, comme tu dis, tu veux te mobiliser à Sainte-Sophie-Saint-Pierre, peu importe. Sainte-Cécile, j'ai du temps Sainte-Sophie.
Mais en fait, c'est pas loin, là, non, mais... c'est vraiment la même gang dans le sens. Ouais, Saint-Pierre, Sainte-Sophie, Sainte-Cécile. C'est un coin-là, c'est. Quand, tu sais, Sainte-Cécile, évidemment, c'est où je suis né. Fait que c'est certain qu'il y a comme un sentiment d'appartenance très enraciné. Mm-hmm. Mais Saint-Pierre-les-Bequets, Sainte-Sophie, Manceau, tu sais, c'est vraiment mon univers. Puis ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que tout à l'heure, on a parlé que ça faisait 20 ans que je suis à la SADC. Mm-hmm. Mais auparavant, j'ai travaillé aussi dans le milieu communautaire, dans le secteur de la MRC de Bécancour. Okay. Puis je me sens vraiment privilégié. T'sais, mes grands-parents, eux, étaient agriculteurs. Donc, eux autres, ils ont vraiment. C'était des gens qui étaient fiers de leurs racines, qui ont travaillé fort, vraiment, là, du côté autant des Labonté que des Brunel. Là. Ma mère, c'est une Labonté de Manceau. Mes parents sont entrepreneurs. Puis je me disais, je suis content d'être dans cette suite logique-là, de travailler avec les artisans du coin. Puis, tu sais, mon travail, là, c'est pas une job. Ben, en fait, oui, c'est une job parce que j'ai un salaire et tout ça.
Oui,
oui, c'est un emploi. Mais. C'est vraiment, je le fais parce que j'aime ça, puis je me sens à ma place dans une mesure où on est vraiment dans un environnement où on est avec des gens de la place. Sébastien, on a la chance d'avoir sur notre territoire des très grandes entreprises. Oui. Prenons la luminerie de Bécancour. La luminerie, c'est énorme, ça a des impacts économiques importants, c'est un bon citoyen corporatif. Nous, on fait équipe avec eux autres en développement durable, mais ils sont vraiment des partenaires de choix.
On a travaillé aussi avec Alcoa. On a travaillé récemment avec eux autres. Fait que tout à fait belle
c'est vraiment une chouette équipe. Puis tant mieux parce que ça emploie quand même 1000 personnes.
Exact.
Moi, je dis tout le temps, à la SADC, on travaille avec une centaine d'entreprises qui créent 1000 emplois. Donc, ces 1000 emplois-là, c'est l'équivalent, si tu veux, du nombre d'emplois qu'il y a à la luminerie de Bécancour.
Tout à fait.
La distinction, c'est que nos entreprises avec lesquelles on travaille à la SADC sont portées par des gens de la place, des filles puis des gars qui font ça parce qu'ils ont une passion. Mais c'est des très petites entreprises. Majoritairement, les gens avec qui on travaille ont de 1 à 15 employés.
Okay.
Donc, les femmes puis les hommes qui font ça, ben ils font de tout. Ils font de la vente, ils font de la production. Mais le fait qu'ils engagent 1000 personnes sur un territoire, donc c'est réparti sur 32 communautés, c'est des gens de la place qui travaillent ici et qui ont plein de pouvoir sur ce que ça va devenir.
Exact.
Donc, nous, là, à chaque jour, il n'y a aucune journée à la SADC qui se ressemble. On travaille avec des êtres humains qui ont des passions et ça, c'est hyper stimulant. Mais on est en train de voir ce que la région va devenir. Ça fait 20 ans que je suis aux premières loges de ce que la région va devenir parce que les gens qui viennent nous voir ont des idées. Et crois-moi que les entrepreneurs aujourd'hui, puis t'en es, je pense, l'incarnation aussi. Parce que moi, je pense que tu as un côté entrepreneur. Là.
Tu peux.
Ouais, tu sais, de la façon dont tu gères, tes balados, la façon dont tu mets en lumière, tu sais, des réalisations des gens d'ici. Un côté entrepreneur. Puis ce côté-là, moi, ce que j'aime, c'est que ça nous permet de voir ce qu'on va devenir comme région.
Exact.
Et tantôt, tu parlais, on ne change pas, on observe. Et je trouve qu'il y a tellement de parallèles à faire avec le développement de nos communautés.
Tout à fait.
Si dans les années 80-85, là, on identifiait nos communautés rurales à partir du fait qu'il y avait une église, qu'il y avait un bureau de poste, qu'il y avait un magasin général.
Mm-hmm.
Parce qu'on ne se cachera pas, dans les années 1900, quand nos communautés, nos paroisses ont été construites, ils étaient construites en fonction de la proximité avec l'église.
Oui.
en 2022, peut-être que ça a changé. Et évidemment, tout ça, là, l'identité à une communauté, le fait qu'on se sente chez nous, ben, ça change parce qu'on ne peut plus uniquement se rallier sur le fait qu'on a une école, une église, une crèche pop, un bureau de poste. Donc, le fait de moderniser nos municipalités, de faire en sorte que le développement se passe autrement, ben, ça vient en sorte que nos communautés, géographiquement, c'est la même chose.
Exact.
On est dans le même lieu géographique, mais ce qu'on y retrouve, ben, ça change, ça évolue, puis c'est correct.
Ben, on n'a pas le choix parce que la communauté qui voudrait absolument ne pas déroger de la modernisation, on va appeler ça de même, à un moment donné, on n'a pas le choix. Tu vas être dépassé. Tu parles de ta famille, ouais. L'entreprise familiale, mon chum qui est un facteur. Moi, n'importe qui veut rester à ses vieilles méthodes en se disant « Non, moi, je ne veux pas changer. » Tu as le droit. Là. On ne dira pas que tu n'as pas le droit. Mais tu cours pas ta perte. Parce que la vie va tellement vite, on en parle, ça change, ça évolue. Fait que, c'est correct, comme tu dis, de se moderniser. Ceci dit, c'est bien de garder un côté local quand même. Comme tu dis, c'est même moi, tu parlais de trou tantôt, moi, c'est la même affaire. Moi, Nicolet, je voyais ça comme une grande ville. Moi, dans le fond, là, j'habite à Nicolet.
Ouais.
Je viens de Berthier officiellement. Okay?
Okay.
Moi, Berthier, dans ma tête, quand j'étais jeune, là, c'était une métropole.
Okay? Ouais, c'était ben oui, immense. C'est ton enfant.
Ben oui, c'était il y a le musée Gilles Villeneuve. Il y avait un McDo, il y avait c'est quoi qu'il y avait? C'était pas Harvey's, évidemment, le classique en sortant du traversier. C'est quoi ce qu'il y a? En tout cas, des commerces de ce temps-là, mais tu sais, c'était collé sur la 40. Là.
Ouais.
Ben, collé ça, à cheval sur la 40. Ben, moi, dans ma tête, Berthier, là, c'était une métropole de 250 000 personnes. Le jour où j'ai appris qu'il y avait 6 000 personnes à Berthier, j'ai fait hé! Tu vois, moi, mon image, quand il y en a qui vont dire, mais non, Berthier. C'est un petit stop pour la 40, c'est rien de plus. Mm-hmm. Moi, je voyais ça comme un patrimoine.
Mais
c'était même affaire de Nicolette. Les gens sont comme, c'est l'école de police. Moi, je voyais ça comme immense. Hey, Nicolette, on a Stratos, on a une Mamma Mia, on a le Théo. Mais c'est vrai, tu sais, le fait d'être dedans, moi, je l'ai vu de même que tu disais tantôt, le chum de ta cousine, tu disais,
ouais.
Carmen de Montréal, qui disait,
ouais.
C'est un trou. C'est pas un trou. C'est la vision est tellement. D'une personne à l'autre, quand tu es dedans, puis de voir effectivement l'évolution. Parce que moi, je regarde encore là, je serais curieux de voir à vol d'oiseau, Nicolet, en 1979, moi, je suis né, à aujourd'hui. Ça, c'est sûr que ça grossit. Mais comme tu dis, le bassin, la mentalité,
ouais.
Je fais des guillemets dans les airs. Tu vois?
Ouais. Les gens qui nous écoutent sont vraiment super stupéfaits
des guillemets que je viens de faire. Ils ont compris le sens.
Ben ouais.
La mentalité reste le pareil, de vouloir encourager, de vouloir faire développer l'industrie et le commerce local.
Oui. Mais tu sais, c'est drôle, hein, parce qu'on dirait que c'est la première fois que j'en prends conscience. Il y a beaucoup de parallèles à faire entre un être humain et une communauté.
Oui.
Dans une mesure où tu peux pas renier ta nature profonde. Et nos communautés ont une histoire qui colore ce qu'elles sont devenues aujourd'hui.
Exact.
Si on parle d'infrastructure, si on parle de services, c'est sûr que ça change beaucoup. Mais notre ADN de communauté, tu sais, moi, j'ai vu des solidarités dans nos villages là, qui feraient pâlir d'envie beaucoup de grandes villes.
Tout à fait.
Parce que les gens sont, tu sais, de façon générale, là, les gens sont bienveillants entre eux. Les gens sont capables du mieux. Puis ça... Tu sais, c'est sûr qu'en ayant le commerce de mes parents, en étant très engagé, entre autres au niveau des loisirs à Sainte-Cécile, on a vu ce genre de solidarité-là, on a vu ce genre d'entraide-là qui existe encore aujourd'hui.
Oui.
Tu sais, moi, la gang de Sainte-Cécile, en fait, à Sainte-Cécile, il y avait, quand j'étais petit, là, moi, j'étais dans une strate d'âge où il y avait peu de jeunes.
OK.
Mais 10 ans plus vieux que moi, là, ça, ils appelaient ça la gang de Sainte-Cécile. J'avais un cousin là-dedans, là, puis une cousine. Eux autres, t'sais, eux autres, ils se tenaient.
Le bassin
ils étaient nombreux. T'sais, nous, on est arrivés dans une espèce de creux de vague là, où il y avait moins d'enfants. Mais il y avait, moi, je les regardais, c'était des ados quand j'étais enfant. Puis je me disais, hey, ils sont bien hot. T'sais, puis cette gang-là se voit toujours. Pour la majorité, ils habitent encore Sainte-Cécile.
Wow.
Et moi, je pense que l'identification à un territoire vient des infrastructures taisonomies, les restaurants, tout ça. Mais ça s'ajoute. Mais ce qui fait qu'on aime un endroit, c'est si on se sent bien, si on a des liens sociaux. Hein, si on se sent en sécurité, bon, tout ça vient en ligne de compte. Puis, je trouvais que dans notre région, ben, il y avait cette espèce de petit, comment je pourrais dire ça? Non, c'est pas un parachute, mais une espèce de soutien. Là. Il y avait comme une espèce de... Tu sais, on est entouré.
Ben,
et ça compte pas beaucoup dans ton identification au territoire ou à une sécurité que tu peux avoir.
Ben oui, puis tu parles de parachute, puis je suis d'accord, c'est un petit peu... moi j'appelle ça nos pantoufles. Mm-hmm. On est bien dans nos petites pantoufles.
Je pense que c'est quelque chose de confortable.
Exact. Confortable. Ouais. Confortable.
Ouais, ça a plus d'allure.
Ouais, c'est ça. Confortable, mais oui, parce que là, tu parles de. On parlait des restaurants, puis tout ce qui se modernise, tout ce qui grossit, puis ça, c'est comme on dit, c'est normal, ça fait partie de la modernisation. On est rendu en 2022, c'est normal que ça évolue. T'sais, à un moment donné, tu peux pas rester avec, mais ces restaurants qui marchent à vieille franquette comme des années 80, tu peux pas, faut que tu évolues autant le côté, regarde, livraison, paiement, façon de cuire, ainsi de suite. Mais on parle d'infrastructure, je ne suis pas prêt à dire patrimoniale non plus, mais dans le sens, là, moi, je suis un joueur de baseball.
Ouais.
Tu sais, les terrains de baseball, c'est un genre d'icône. Mm-hmm. Il y a un côté de terrain des bénévoles. Je ne sais même pas si ça parle encore de terrain bénévole. Je pense qu'il a changé de nom. Mais le premier terrain qui était direct à côté de l'aréna, ça, pour moi, c'est beaucoup de souvenirs. Moi, j'allais là, je sais que mon chien courait. Ça me donnait un genre de sentiment. Tu sais, tu parles de parachute, on parle de pantoufles, de confortable. Juste d'aller courir avec mon chien, avec un frisbee, sur ce terrain-là.
Ouais, hein?
Tu sais, tu comprends? Mm-hmm. Là, mon gars, il est rendu à 3 ans. Des fois, ça arrive, on va sur le terrain de balle, puis il fait juste courir. Il joue pas encore baseball. Mm-hmm. Il vient d'avoir son t-ball. Il commence à. Mais tu sais, juste le fait d'être là, ça a un sentiment de. Tu te dis, en début de podcast, un genre de côté affectif, peut-être.
Mm-hmm.
Tu sais, ça ramène aussi des vieux souvenirs. Ça ramène. Tu sais, moi, comme je suis un gars de baseball, je me rappelle beaucoup des tournois qu'il y avait Nicolas, puis tout. Puis tu sais, tout le monde sait qui fait quoi. Mm-hmm. C'est moins individualiste, on va se le dire. Là. Mm-hmm. Oui, on est plus petit. Nicolas est plus gros que Saint-Cécile, oui, mais c'est la même vibe, si on peut dire.
Mm-hmm.
Le côté d'être moins individualiste, tu disais tantôt, tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Le noir du village, le chinois du village, je fais des farces, mais c'est ça, tout le monde, c'est qui? L'adulte significatif que j'ai bien aimé, mais c'est vrai,
ouais.
Il y a des personnages qui ressortent et qui ne sont pas nécessairement péjoratifs ou quoi que ce soit. C'est juste, ils ont une vibe, si je peux dire, ouais. Autour d'eux autres qui fait que ce monsieur-là, il a marqué bien des gens sans qu'ils sachent, puis ça a fait son effet.
Puis je ne sais pas si c'est une question de densité de population, mais tantôt, je te parlais des gens, des adultes significatifs. C'est fou, hein, parce que oui, on sait qu'ils sont plus vieux que nous, là, parce qu'on. Mais j'ai l'impression qu'on voit moins la différence d'âge quand tu es dans une petite communauté. Parce que.
Ça se peut.
Ben, en fait, tu sais, moi, je faisais justement, j'en parlais justement avec des amis en fin de semaine. Nous, on avait un boulanger au village.
Okay.
On avait un magasin général. Puis ces gars-là nous recevaient avec leurs femmes. Tu sais, il y avait quelque chose de très significatif. Il y avait une dame qui s'appelle Georgette qui était très engagée au niveau de la pastorale, qui nous faisait vivre des trucs.
Okay.
Puis oui, on savait que c'était des adultes parce que clairement, il n'y avait pas notre âge, mais il n'y avait pas de distance.
Ouais.
Il y avait comme une espèce de collégialité. Puis ces gens-là, veux pas, ça amène un univers qui va au-delà de la famille.
Mm-hmm.
Parce que souvent, quand tu es dans ton environnement familial, ben, tu vis avec les valeurs, avec ton héritage familial. Mais quand tu es ouvert à d'autres personnes qui ont d'autres réalités, en tout cas, moi, je trouve que ça vient enrichir un quotidien d'enfant qui était, je vais te dire honnêtement, puis là, tu peux le comprendre, j'étais une éponge. Dans le sens où moi, j'aimais ça. T'sais, autant j'aimais l'école où on avait... tellement plein. Tantôt, tu parlais ministre de l'Environnement et des Services. Tu sais, je pense que les professeurs à Saint-Pierre et à Sainte-Cécile, parce que moi, je suis allé dans les deux écoles primaires, là, c'était des écoles de cycle, ont vu rapidement que moi, j'avais besoin de projets,
mm-hmm.
tu sais, pour bouger. Puis comme je te dis, le petit gars n'est pas bien loin de ce que je suis devenu comme monsieur. Là.
Ben, c'est ça.
Mais, tu sais, puis ce qui ont été super, les profs à Saint-Pierre et à Sainte-Cécile, c'est qu'ils ont compris.
Ils te filaient?
Oui, oui. Alors, moi, là, tu sais, je veux dire, je finissais mes travaux à un petit peu en avance, dans le sens où, tu sais, j'aimais ça, là, mm-hmm. c'était pas une lourdeur. Donc, après ça, pour occuper le petit Brunel, là, il me donnait des projets de, tu sais, il disait, tu vas travailler là-dessus, tu vas m'organiser quel truc. Fait que c'est sûr que ça
colore. Invente un ministère.
Ben, ça, en fait, ça, c'était tellement trippant parce que c'était un gouvernement étudiant.
OK.
Puis le gouvernement, c'est qu'il y avait différents types de ministères. Puis on faisait vraiment des élections. Donc,
t'as vraiment été ministre. C'est pas dans ta tête, puis c'est pas un rôle que tu t'es donné.
Non,
là.
Des fois, ça arrive, Sébastien, mais non. Dans ce... pas dans celui-là. Dans ça, c'était vraiment un gouvernement étudiant.
Okay.
Et il y avait différents types de ministères. Puis moi, l'environnement et service, moi, ça m'a toujours super allumé. Puis service, c'était beaucoup tout en lien avec. Il y avait l'environnement, ça, c'est assez clair, là, le recyclage. Tu sais, techniquement, là, dans la vraie vie, un ministre de l'Environnement dans les années 80 à Sainte-Cécile, c'était de s'occuper d'aller vider le recyclage.
Okay.
Hey, non, mais notre année, nous, on avait une année tellement capotée là, à Sainte-Cécile. On a revampé ça. Là, dans le sens, ça, on le faisait. Là. On a fait bien plus que ça. On a organisé des événements. On a fait. Je me rappelle, à l'époque, c'était très populaire, les bout de chou.
Les cabaches Patch Kids.
Oui, ben, c'est ça. On a fait une crèche en bout de chou. On a fait des murales à l'école. Il y avait quelque chose de très porteur dans notre gang du primaire qui s'est transposé évidemment au secondaire. Ouais. Puis les professeurs, là, au lieu de briser ça, ont dit non, attendez, on va vous aider. Fait que, tu sais, moi, je suis énormément reconnaissant avec les professeurs de l'époque qui sont devenus. C'est fou, hein, parce qu'on s'en rend pas compte quand on est au primaire, mais quand on devient un adulte, on dit OK, mais maudite chance qu'on les a eus. Mm-hmm. Oui. Parce qu'ils nous donnaient juste des leviers pour que ça soit possible. Au secondaire, c'est la même affaire. Tu sais, on arrive, puis c'est ça, là, pour fêter nos 30 ans d'école secondaire, on a parlé des anciens enseignants ou des professionnels à l'école. Puis on dit, votre année de 92, là, on s'en souvient comme c'était hier parce que vous aviez tous, vous aviez peur de rien, vous étiez très engagés. Bon, ce qu'ils diront pas parce qu'ils sont polis, mais moi, je vais te dire, on était une année de tête forte où tu sais, il y a eu des. Tu sais, je me rappelle où le directeur nous rencontrait, puis il disait, là, la gang, là, vous allez mettre votre chapeau, ce qui vous revient, parce qu'on avait quand même beaucoup de tempérament comme groupe.
Okay.
Mais tu sais, ça fait des êtres humains aujourd'hui qui se dépassent dans leurs disciplines respectives, mais il y avait quelque chose de très. Très stimulant d'aller à l'école. Ben, au-delà de la matière académique, il y avait une vie sociale. Mais en tout cas, c'est sûr que je n'ai pas connu d'autres écoles secondaires, mais pour moi, la grandeur, le nombre de personnes à l'école, la qualité des enseignants qui voyaient en ces jeunes-là, les jeunes qui essayaient, qui se trompaient, mais qui laissaient de l'espace. Écoute, ça donne des ailes.
Ben oui.
Je ne sais pas jusqu'à quel point. Là, écoute, c'est très, très limité comme vision ce que j'ai, mais j'ai toujours eu l'impression que ce parcours-là nous a donné beaucoup plus d'outils.
100%.
Et tout en vivant en campagne.
100%, parce que vois-tu, tu parles, vous étiez quoi, 600 à Saint-Calais?
600, ouais. Nous, on était 92 dans notre année.
Bon, tu sais, fait que polyvalente, Anne-Colette, ça devait être à peu près 600-800, peut-être.
Ouais, peut-être un peu plus grand, ouais.
Mais la grosseur, tu regardes la bâtisse, ça ressemble beaucoup. Ces deux bâtisses, ça ressemble beaucoup. Puis nous autres, c'est un petit peu la même affaire. Écoute, on avait, nous autres, appliqué pour être... appliqué. Ah oui, c'est une application pour être le gouvernement, justement, scolaire. Mais disons, ça avait été plus un genre de toute ma petite gang, nos blondes, ils s'étaient présentés. On était en secondaire 4 à ce moment-là. Pas vrai, secondaire 3. C'était pour être en secondaire 4. Puis c'était toutes nos blondes, puis il n'y avait pas de moi, j'aimerais ça. Je cherche le mot matin, ça va bien. Un gars comme moi, je cherche mon mot. Il n'y avait pas de la confrontation de...
Ben, il n'y avait pas de clan. Ennemi ou pas ennemi, ouais, c'est fort un peu, mais il n'y avait pas de compétition.
Compétition, bon, on va dire ça de moi. Okay. Il n'y avait pas de compétition. Fait que nous autres, c'est comme, on va être élus, ça va bien aller, ça va être facile. Fait que nous autres, on s'est dit, juste pour les...
Oh non!
Ouais!
Hey, on dirait une série de la Ouattatata.
Juste pour les runner. Nous autres, on est comme, on gagne repos. Mais juste pour les en donner, pour leur argent, mais si on se présente. Fait que moi et toutes mes chums de gars, on s'était présentés, puis tu sais, il fallait peut-être du monde sur 2, 3, 4, 5. Le président, il fallait qu'il soit en 4, qu'il s'en allait en 5 l'année suivante, ainsi de suite. Fait qu'on s'était allié avec du monde que, tu sais, pour être vraiment by the book. Fait que, on avait tout. Puis, bon, mon côté, tu sais, je te parlais, à un moment donné, je suis tombé leader, je suis tombé. Puis, côté artistique, j'ai toujours eu jusqu'à un certain point.
OK.
Puis, j'avais deux de mes chums qui étaient très forts en dessin aussi. Fait que nous autres, on s'est dit. Tu sais, je travaillais en marketing, en communication, c'est pas pour rien. Dans le temps, j'avais déjà ça. On avait fait, eux autres, ils allaient vraiment politically correct. Ils faisaient des belles pancartes, quasiment électorales, de municipales puis gouvernementales. Puis tout. Là, c'était des belles pancartes avec des belles promesses. D'autres, on te les plantait. Tu sais, on faisait, c'était des rouges puis des verts. Les couleurs.
C'est plus instinctif.
Oh, et nous autres, c'est juste pour les challenger. Okay. Nous autres, jamais qu'on pensait gagner, jamais qu'on voulait gagner.
Okay.
Tu sais, ils faisaient des affaires. D'autres, on était les rouges, comme je dis. D'autres, c'était les verts. Fait qu'on avait sorti toutes les affaires. Admettons, on avait dessiné toutes les schtroumpfs qui s'enlevaient des pantalons. On avait fait le grand schtroumpf en avant, qui est en rouge. Puis on disait, faites comme le grand schtroumpf, adoptez le rouge. Après ça, on avait fait, dans le temps, les ruffles, c'était quoi l'article? Ruffles? C'est bien meilleur quand c'est ruffles. Enfin, de même, en tout cas, nous autres, on avait fait le signe ruffles marqué rouge. C'est plein d'affaires de même, classique. Mais à un moment donné, eux autres, ils ont voulu... Ils ont comme commencé à voir qu'on faisait parler. Puis les Smarties, c'est dans le temps que les Smarties, les rouges, il y en avait à cette heure.
Ouais.
Après, oubliez pas les élections, il y en a aussi des rouges. Tata, 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 ouais.
Fait que tu avais déjà le sens du marketing.
Ouais, un petit peu. On était deux, trois de même.
Ouais, mais c'est solide, ça.
Puis le plus fort qu'on a frappé, eux autres, à un moment donné, ils ont voulu aller un pas devant. Fait qu'ils ont fait une belle lumière de circulation. avec un rouge, jaune puis vert, puis c'est le vert qui flashait ou qui était juste vert, peu importe. Puis il était marqué aux élections, ne vous arrêtez pas au rouge, passez immédiatement au vert.
Ah, c'est bon ça?
Oui. Mais là, ils savaient pas qui se collait.
C'est qu'est-ce que vous avez répondu à ça?
À côté, on a fait un accident. On a dessiné un accident. Des chars, des bras pétés, puis tout du sang partout. Puis marqué, voici ce qui arrive lorsqu'on ne s'arrête pas au rouge. Pouf!
Aïe, 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 wow! Genre,
plein d'affaires de main. Fait, tu sais, toi, t'es là juste... Hey, autres, ils étaient, nos, je me rappelle, nos blondes, ils étaient en tabarnak après nous autres.
Ben, hein? J'imagine.
Les autres, on était juste là plus... Pitcher, mais comme, ben, regarde, vous avez gagné pareil. On veut juste vous donner un petit peu d'opposition. C'est ça, je cherchais.
Ouais, ouais.
On était comme compétition, confrontation, opposition.
Puis là, qui a gagné, c'est quoi, au final?
Les autres.
Ben, c'est ça. Je savais. T'as commencé, puis je me dis, ça va finir demain.
Puis là, tu sais, je te compte, j'ai des frissons parce que quand on a gagné, là, lui, c'était comme le directeur des activités, à peu près. Lui, il était comme, non, pas vrai que c'est eux autres qui font.
C'est Captain George?
Exact. Tu connais Captain George?
Ben oui, tout le monde le connaît.
Lui, il a fait un genre de, non, c'est pas eux autres qui vont être
mon gouvernement.
Mon gouvernement, tu sais. Mais tout ça pour dire que quand on est arrivé l'année d'après, après ça, on s'est dit, regarde, on est élus, ils nous ont élus, ben, on va nous en donner de leur argent. Et là, on n'a pas tout changé, en sens, on n'a pas révolutionné non plus la police, là. Mais tu sais, on est allé les affaires, on est toujours le faire. Comme c'était avant. Non, tu sais, admettons, il y avait le carnaval. On a toujours de faire ça avec les mains. On peut repartir ça à zéro. On a reparti. On a parti un genre de Fort Boyard dans le temps. On a fait un paquet d'affaires qui fait que, ultimement, c'est parce qu'on a eu l'accord des gens. Comme tu dis, il y aurait pu. Des fois, on disait, ouais, là, vous êtes allé loin un peu. Mais tu sais, il n'y avait rien non plus de trop. Tu sais, comme je dis, l'accident, on n'a pas fait non plus. C'était des bonhommes. Tu sais, on est allé fort, mais mettons, je me rappelle, un des professeurs dans le temps, Paul Lachance.
Oui. En histoire, je pense, Paul.
Ben moi, j'ai lu en plein d'affaires. Il commençait quand j'étais allé à ça, oui, professeur en histoire. Tu sais, lui, il avait fait un genre de. C'était clever, les gars. T'sais, il avait un beau message. Oui, c'est correct, l'accident et tout, mais tu sais, c'est comme. Voici ce qui arrive quand on n'arrive pas au rouge. T'sais, dans le sens, il y a aussi le côté, c'est pas juste élection, c'est le côté. OK, vous voulez jouer à ça, là, de ne pas arrêter la lumière rouge. Non, on est des enfants. On commence, on s'entend à cet âge-là, on a nos permis temporaires, peu importe. Nous autres, on va dire les vraies choses. Si tu n'arrêtes pas au rouge, c'est ça qui va t'arriver, fille.
Mais j'aime tellement ce que tu dis, Sébastien, parce que l'apprentissage là, se passe dans un milieu académique. Okay? Oui. Donc, on apprend des mathématiques, on apprend à faire des phrases avec notre français. Puis tout ce que tu nommes, c'est de l'apprentissage, mais de l'apprentissage sur le terrain. Oui. Tu apprends vraiment à vivre en société. Tu apprends, là, en plus, tu as vos blondes. Fait que sûrement, ça a amené des situations personnelles que tu n'évoques pas dans ce que tu nommes, mais il reste un fait que cette expérience-là.
Moi, ça a participé. Okay. Les autres, oui.
Ouais, ben, j'imagine. Hein. Mais, puis en même temps, tu sais, je t'écoute parler, je ne te connaissais pas à ce moment-là, puis on dirait que je te reconnais comme adulte aujourd'hui.
Mais comme on dit, on n'est pas tant loin.
Non, c'est ça.
On ne change pas tant. On évolue.
Ouais.
On ne change pas, à mon avis, là.
Mais je t'entends parler, là, puis je ne te connais pas beaucoup, puis je me dis, OK, il y a quelque chose de très significatif dans cette histoire-là.
Dans ce sens.
Ben, dans le sens où, tu sais, ce que tu t'en parlais, tu avais des étoiles dans les yeux. Oui. Ça te remémorait probablement ce que vous avez eu comme idée, comment vous avez travaillé en équipe.
Oui.
Tu sais, le faire ensemble. Là.
Puis de secondaire 2 à 5, il y a des amis qu'on s'est fait grâce à ça parce qu'on avait des, comme je dis, secondaire 2, 3, 4, 5, ça nous prenait. Fait qu'on s'est fait des amis au travers de ça. Fait que, tu parles un petit peu de s'identifier. C'était pas juste notre petite clique de secondaire 3 à ce moment-là. Là. On s'était fait des nouveaux amis, on s'est fait une nouvelle, tu sais. Puis le président, lui qui s'est avéré être président, il joue au basket avec nous autres. Fait qu'on s'est comme rapproché plus de ce gars-là. Fait que ça a aussi tissé des liens dans l'équipe de basket. Là, tu vois, ça a fait un genre de gros, tout ça juste pour challenger nos blondes.
Mais,
puis que, tu sais, ultimement, ça a marché.
Tu vois, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour quelqu'un qui a un talent. Il y a des gens comme toi, c'est en création. Tu sais, tu es des musiciens. Puis, mettons, l'être humain là, est capable de beaucoup de choses. Puis, tu sais, quelqu'un qui chante, quelqu'un qui construit des maisons, quelqu'un qui. Moi, je. T'sais, individuellement, je trouve que c'est fascinant comment l'être humain peut se dépasser. Mais ce qui me fascine encore plus, c'est quand l'être humain qui a tous ces talents-là se met en équipe pour faire profiter aux autres de ces talents-là. Et ça, là, j'écoute des films et moi, je casse directement. Aussitôt que je vois des gens qui ont des forces différentes, je dis, regarde-nous, là, c'est plus facile de le faire tout seul, mais on va le faire ensemble puis on va le faire mieux. Et voilà. Ça, moi, je t'en parle puis je t'émotive parce que je me dis... C'est une sacrée chance qu'on a de pouvoir communiquer avec les autres, de vivre dans une société qui nous permet de développer nos talents, mais de le faire ensemble, il n'y a aucune obligation de la part de personne.
Voilà.
Mais on le vit. Ce que tu nommes là, tu sais, je vois Sébastien, il y a 15-16 ans, qui a un talent, clairement, une imagination, qui dit, garde, Bon, la motivation, la motivation de base était peut-être de créer une opposition au blanc, mais à la base, peu importe la motivation, vous l'avez faite en équipe. T'sais, vous avez eu la chance de jaser puis de dire, ben, regarde, ce souvenir-là, on l'a ensemble.
Exact.
Fait, t'sais, si on revient à ce qu'on se disait par rapport sur le développement des communautés.
Ouais, c'est une grosse parenthèse qu'on vient de faire. Mais ouais.
Non, pas tant. Alors, je trouve qu'elle est complètement en cohérence avec ce qu'on dit depuis le début. Quand on décide de vivre dans une communauté tissée serrée, avec des gens qui ont le goût de participer à l'effort collectif, mais qui ont chacun leur talent, ça demande quand même aussi, dans les lieux communs, des zones de communication, des façons de travailler. Absolument. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours, tu sais, le faire ensemble, c'est très puissant, c'est très, bon, ça me touche, là, tu sais,
ben oui,
mais ça demande l'effort.
Oui.
Parce que c'est pas tout le monde qui pense comme nous, c'est pas tout le monde qui ont les mêmes visions. Donc, de travailler en collaboration, en communauté, et moi, écoute-moi, c'est un terrain de jeu qui me fascine de comment on peut réussir ensemble. Puis si tu me permettrais, je t'en ferai une petite parenthèse, parce que tantôt, tu as fait allusion au carnaval de Nicolet, là, à l'école secondaire. Moi, j'ai habité pendant plus de 20 ans à Gentilly, puis c'est une communauté d'appartenance. Si je suis né à Sainte-Cécile, c'est sûr que j'ai un ADN très, très puissant à la communauté de Gentilly. Puis ce qui m'a attiré là au départ, là, c'est vraiment le carnaval d'hiver. Okay. C'est le deuxième plus vieux carnaval au Québec. C'est le deuxième plus vieux après Québec. C'est un carnaval qui mobilise à chaque année plus de 300 personnes. C'est un carnaval qui, dans mon enfance, mon adolescence, était très... je l'idéalisais, je vais t'avouer, là, je voyais les adultes là-dedans, puis je me disais, hey, c'est bien hot. Puis tu sais, je voyais des êtres humains qui se donnaient, tu sais, c'était tous les parents de mes amis qui étaient présidents, qui étaient dans, puis qui laissaient de la place aux jeunes.
Mais oui.
Puis moi, j'ai jamais pensé que je deviendrais un jour président du carnaval. Honnêtement, tu sais, j'avais rien, j'étais pas de gentil, j'étais pas dans cet environnement-là, mais j'ai été bénévole de nombreuses années à différentes occasions. Puis en 2014, comment ça fonctionne au carnaval de Gentilly? Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ça, c'est un carnaval qui dure aussi 5 mois.
Ouais, c'est ça.
Ça commence en octobre et ça se termine en février. Tu sais, là, je parle comme si tout le monde connaissait le carnaval de Gentilly. Alors, rectification. C'est une série, c'est un calendrier de 25 activités culturelles, sportives, communautaires qui met de l'avant. Il n'y a personne de rémunéré là-dedans. Et tous les profits vont aux loisirs de Gentilly. Bon, dit de même, là, ça, c'est un véhicule très ludique, très activité. Même pour moi, le carnaval de Gentilly, ça a un sens beaucoup plus ancré dans la communauté parce que là, ça fait, je pense que c'est le 54e carnaval cette année. Je peux me tromper, là. Moi, j'étais président 46.
Oui,
ça fait 8 ans, effectivement. Donc, ça serait le 54e. Et le carnaval, ça a créé au courant des années une espèce de cohésion sociale. Les gens intergénérationnels se sont parlé. Moi, quand je suis arrivé à la présidence du carnaval, il y a une fille qui m'avait dit, qui avait été présidente, ben, en fait, José Magny, qui était avec Pierre Maurras, président du carnaval au 44e. Moi, je suis arrivé 2 ans après eux. Puis José m'avait dit, tu sais, elle dit, fais donc un carnaval qui te ressemble. Tu sais, quand tu dis tout à l'heure, t'en parlais, tu sais, on voulait faire quelque chose qui nous ressemblait. Ben, moi, le carnaval, je me dis, OK. Et ça m'a enlevé comme 10 000 livres parce que quand tu acceptes le rôle de présidence, ça vient. Puis je pense à Andréane Tardy là, qui est présidente pour cette année. On se met une pression en disant hey, il y a comme une historique, on ne veut pas décevoir, on ne veut pas être celui qui va faire mourir le carnaval.
Ouais.
Puis Josée, quand elle me dit c'est fais donc un carnaval qui te ressemble, mais tu vas voir que tout est dans tout, Sébastien. Moi, je me suis dit je ne veux pas avoir un nom, un slogan avec mon nom.
Ouais.
Ben Steve, c'est une année positive. En tout cas, bref, c'est pas que j'y ai pas passé, mais je me disais, mais c'est pas par la limitation de mon nom. Mais
j'aimais une année positive.
Ouais, c'est ça.
Ça.
Mais une année exceptionnelle avec Brunel. Mais tu sais, je trouvais que c'était pas ça que je voulais.
Ouais.
Puis, moi, j'étais arrivé en 2014. Non. Puis moi, j'arrivais après la fermeture de G2, la Gentilly 2. Ouais. C'est une communauté qui ne savait pas trop de quelle façon ça allait tourner, tout ça, parce qu'on ne savait pas trop ce qui arriverait des emplois, de quelle façon les commerces pourraient aussi avoir l'espèce de contre-coup de la fermeture. Et le slogan, ça a été « Parce que ça prend toute une communauté pour faire un carnaval
wow. ».
Et l'idée derrière ça, c'est parce que nous, notre lieu commun, quand on se réunissait, c'était souvent la salle Yvon Guimont, qui est un lieu fermé. C'est super intéressant parce que l'hiver, on est à la merci de la température. Dans le lieu fermé, on se disait, bien, il y a une entrée d'argent parce qu'il y a des coûts. Il y a une volonté aussi d'amener de l'argent à loisirs gentils. Puis moi, j'aime ça. Tu sais, j'aimais beaucoup ces lieux de rencontre-là, mais je voulais un carnaval décloisonné. Parce que pour faire un carnaval, si on reste hermétique, si on reste uniquement dans une petite boîte puis qu'on dit, on va faire rentrer du monde, ben, ça fait en sorte que c'est toujours le même monde. Puis les gens qui arrivent à Gentilly, ils ne seront pas portés à venir parce qu'on dit ben, c'est tant même gang. Puis ça.
C'est
puis,
la clique.
Mais il faut dire que, tu sais, je dis ça, je te parle de préjugés par rapport au carnaval parce que ce n'est pas vraiment ça qui se vivait, là, vraiment pas. Parce que
a, non, mais là, tu vois quand même dire.
Mais l'image. Et là, je me disais, tu sais, moi, je travaille en développement économique, je connais tous les bailleurs de fonds, ils vont me donner de l'argent pour le carnaval. Ça va être super simple. Mais ça n'a pas été le cas.
Ah non?
L'argent n'est pas venu d'ailleurs. Est venu des commerçants qui ont dit nous, là, on va continuer à investir dans le carnaval parce que pour nous, on trouve ça important pour notre communauté. Okay. Les commerçants du coin qui étaient les premiers touchés par la fermeture de G2 ont continué d'être solidaires au carnaval. Et je me dis OK, un dans l'autre, il faut vraiment que ce véhicule-là profite aux commerçants et aux entreprises qui sont en dehors de la petite boîte qui s'appelle la salle Yvon Guimont. Okay. Donc, parce que ça prend toute une communauté pour faire un carnaval, on est allé chercher. Ben, les gens du parc de la Rivière-Gentille, du Moulin Michel, les restaurateurs, le bar, le bistrot côté sud
de chercher
qui ont tout embarqué dans cette aventure-là pour offrir un calendrier d'activités. On a eu des activités au centre du village, on a eu, c'était super, on a fait la première pêche sur la glace.
Okay.
Ça a été super. Puis, tu sais, on avait aussi le responsable, il dit ça va coûter cher parce qu'il n'y avait pas de frais. Là.
Ouais.
Il n'y avait pas de
coût. Non, il y a zéro frais. Là.
Puis, je dis non, c'est pas ça. Moi, ce que je veux, c'est. Puis, tu sais, en même temps, j'ai un sens de l'entrepreneuriat. Là, je ne voulais pas avoir un déficit non plus. Mais on va investir pour permettre aux familles qui ont peut-être un peu moins de sous d'avoir accès à ce fleuve-là puis de voir que ça existe, que c'est notre communauté. Tu sais, les plus beaux compliments que j'avais, là, c'est quand le lendemain de fin de semaine, les commerçants me disaient « Steve, il y a eu du monde chez nous toute la fin de semaine. Ils sont venus au bar, ils sont venus mettre de l'essence, ils sont venus au restaurant manger de la pizza. » Puis un autre beau commentaire, c'est quand les parents d'enfants me disaient, tu sais, les enfants avaient juste hâte à vendredi pour qu'on aille chercher la pizza puis qu'on aille au centre du village pour faire les activités estivales plein air.
La paye est là, là.
Ben moi, c'était clairement ça. Tu sais, je me disais, on a amené, Sébastien, le même montant d'argent. Tu sais, on a fait les mêmes profits que les autres années. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir calculé ce que les commerçants, eux, ont gagné en impact financier. Mais ceci dit, tu sais, je veux dire, c'est pas isolé à cette année-là de carnaval parce qu'évidemment, quand les gens. Le carnaval, c'est un véhicule extraordinaire pour amener des gens à Chantilly.
Moi, ça fait 54 ans qu'il existe. Donc, il a fait ses preuves.
Mais d'aplomb. Puis, tu sais, je trouve que ce véhicule-là, cette année-là, j'étais vraiment aux premières loges parce que j'ai vu des gens se dépasser, j'ai vu des gens trouver. Même, il y en a un, tu sais, le jeune, il a fait un show d'humour au bistrot côté sud. Okay. Ce gars-là fait maintenant, organise des événements de cette
place.
Ouais, je trouve ça vraiment cool de voir.
Comment c'est là?
Ben, je pense qu'il y avait de l'intérêt, mais il n'avait jamais osé.
OK. Ça a quand même été son tremplin.
Ben, en fait,
dans le dos.
Ouais, je pense qu'on a juste fourni, parce que le carnaval, ce qui est trippant, c'est qu'il y a une infrastructure. Pour organiser des activités dans le carnaval, là, tu peux avoir les idées, tu peux les mettre en pratique, mais ça te prend des gens à la technique, ça te prend des gens au bar, ça te prend des gens qui s'occupent de la communication. Et souvent, ces bénévoles-là sont en appui à des gens qui en ont fait, mais qu'il y en a qui n'ont jamais fait rien comme engagement bénévole. Et ça vient juste appuyer une relève.
Tout à fait.
Donc, ce n'est pas étonnant qu'au carnaval, on ait des bénévoles de 12 ans, comme on en a de 75. Donc, cette espèce de vie communautaire, là, cette, tu vois, tout est dans tout.
Ben oui.
Donc, comment on peut collectivement mettre nos talents individuels au profit du collectif et tu sais, nos communautés regorgent. Tu sais, là, je te parle du carnaval de Gentilly parce que je l'ai vécu très, mais tu sais, avec la SADC, on voit des initiatives partout. Ben, tu sais, ce que vous faites au parc de la Rivière-Gentilly, ça a pris une ampleur exceptionnelle.
Plus qu'on pensait, mais oui, tout à fait.
Ben non, mais tu sais, moi, là, mettons, là, quand avec les SADC, on voisine des gens de l'extérieur de la région, là, puis quand je me fais dire, ah ben oui, vous autres, on vous connaît. Parce qu'à chaque année, nous, on est incontournable, c'est d'aller au parc de la Rivière-Gentilly.
Sérieux?
Ben oui, hey, j'étais à Tadoussac, j'entends parler du parc de la Rivière-Gentille, je vais te dire que j'avais le torse bombé.
Ben, OK.
Tu sais, dans le sens où.
C'est là que tu me dis ça, là, à Tadoussac.
Ouais, mais non, mais plus large que ça, Sébastien, parce que, tu sais, je pense que vous avez fait au niveau du vélo. Tu sais, les pistes qui ont été développées, ça a attiré une clientèle aussi qui était au-delà de nos frontières.
Oui.
Puis ce qu'on vit au niveau de nos entreprises touristiques, tu sais, on a des entreprises touristiques. Il y a 20 ans, là, on se croyait pas une région touristique. Parce qu'on voyait Charlevoix, on voyait l'Estrie.
On n'avait rien, encore les gros guillemets des airs.
Ben, c'est-à-dire qu'il y avait des choses, mais je pense qu'on ne voyait pas tout le potentiel de notre centralité. Et là, oups, il arrive des joueurs qui sont sortis. Parce que, tu sais, on s'entend, le parc de la Rivière-Gentille, il y a 20 ans, là, c'est pas ce que c'est devenu aujourd'hui. T'sais, moi, je me rappelle, on y allait avec des amis, c'était plus une place pour chiller que l'expérience ouais. de plein air que ça suppose aujourd'hui. Puis, multiplie ça à plusieurs entreprises. Le centre de biodiversité qui existait, mais qui a pris une ampleur. Le Moulin Michel qui a toujours été présent, qui est une fierté très enracinée, qui prend son essor. Il y a plein de... Puis d'ailleurs, j'imagine qu'il y a des gens de l'extérieur de la région qui écoutent ton balado. Allez prendre un café à Saint-Ours, ben venez nous voir chez nous. Ben on n'est oui, pas très oui. loin. Il y a des opportunités d'expérience familiale vraiment trippantes. Puis, en fait, ce que je veux dire, c'est que notre région se transforme. Elle se transforme parce qu'il y a des talents qui émergent, parce qu'il y a des gens qui les mettent au profit du collectif. Tout est dans tout.
Tout est dans tout.
Puis, tu sais, ajoute à ça... Tantôt, on parlait de Montréal, puis de l'accessibilité à la culture, aux produits ethniques. Mm-hmm. Bien, on a vu dans les 20 dernières années aussi un territoire agricole, parce que ultimement, ouais. dans les années 1900-1950, on était un territoire foncièrement agricole mm-hmm. qui a, au-delà de la production, a commencé à transformer ses produits.
Tout à fait.
Une meilleure connaissance de nos produits régionaux et c'est fait par du savoir-faire local et il n'y a rien de gênant là-dedans. On a reçu il y a 2 ans, avant la pandémie en fait, des gens des SADC de tous les coins du Québec.
Okay.
Ils sont venus, ils saluent tellement fort. On a visité Bécancour, Nicolet, tout ça. Ben, visiter dans le sens où c'était dans une perspective ouais. de développement durable. On voulait démontrer tout ce qui se faisait. Et c'est fort étonnant de tout ce qui se fait en développement durable dans notre territoire.
Versus les autres, mettons?
Ben, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un potentiel à développer parce qu'il y a clairement une niche de touristes qui cherchent l'expérience oui. optimale en développement durable, qui vont avoir accès à la nature d'une façon éco-responsable. Bon, le parc est un exemple, l'Hôtel Montfort c'en est un autre. Il y a plusieurs opportunités sur le territoire ouais. qui pourraient potentiellement attirer des gens, pas dans un tourisme de masse, mais dans un tourisme qui suppose une expérience optimale du ouais. développement durable. Ouais. Puis dans cette logique-là, tout ce qui est circuit court, tout ce qui permet d'avoir accès à de la nourriture de proximité, hey, on est super chanceux. On a les jardins du Québec ici. Là. Et comment les gens, on peut avoir accès à ces produits-là, de quelle façon on les consomme. Et tu sais, souvent, là, on dit, ah ben là, l'épicerie coûte plus cher. Une espèce de transition. On se dit, ouais. OK, mais de se faire un jardin à l'arrière de la maison, de cultiver ses légumes, d'être capable, tu sais, nos parents faisaient ça. En tout cas, moi, mes parents à Sainte-Cécile, on avait un immense jardin pour manger des carottes, des patates, puis des fèves
carottes
sucrées. Oui, qu'on en conserve, mettons, dans des pots maçons toute l'année. Puis aussi, d'aller faire des clins d'œil à des producteurs locaux. On est moins dépendant de ce qui se passe dans d'autres pays quand on consomme localement, mais c'est surtout que c'est bon.
Ben oui. Ben oui.
On a eu, en fait, on est allé au fief de la Rivière, le vignoble à Saint-Grégoire, puis c'est une belle place à visiter. Puis on s'est fait un pique-nique en se disant, OK, notre défi, c'est d'amener des produits du coin.
OK.
Puis tabarouette, on apprend à en connaître encore. T'sais. Donc, je pense que les artisans locaux, le grand savoir-faire local n'a pas fini de nous étonner.
Tout à fait.
Donc, si vous êtes de l'extérieur, venez nous rencontrer, venez nous voir, venez visiter nos entreprises touristiques, mangez chez nous, ça, c'est bon pour notre économie locale.
Aussi,
ça, c'est toujours le running gag.
Ben oui.
Je sais que mes amis vont écouter le balado puis ils vont dire, OK, il n'est pas complètement déconnecté. C'est bon pour notre économie. Mais,
ben ouais, ça cachera pas.
Mais en même temps, je sais qu'il y a beaucoup de gens de la région qui vont écouter ton balado. Soyez aussi des ambassadeurs de ce savoir-faire-là parce que souvent, nos gens viennent de l'extérieur puis on ne sait pas, comme citoyen de la place, toute la valeur et toute la qualité de ce qui se passe ici. Puis tu sais, peut-être en conclusion, tu sais, tantôt, je te parlais de l'identité d'un territoire. L'identité au territoire, ça peut être l'infrastructure. Ça peut être l'être humain que tu as rencontré, qui était significatif. Oui. Ça peut être des gens qui t'ont fait confiance dans tout ton parcours de vie, qui ont dit « Hey, sais-tu quoi? Je crois en toi puis je vais t'aider à te développer malgré que tu puisses faire des erreurs. » L'identité d'un territoire, ça peut être aussi ta fierté de voir des gens réussir. Oui. Mais réussir oui. à travers leur propre potentiel puis à leur façon de travailler collectivement. Je pense que, écoute, tu me fais réfléchir un matin. Je pense que le café est bon. Ça m'a ouvert sur peut-être un fil conducteur que je savais qui n'était pas nécessairement en pleine conscience, je te dirais, mais sur la valeur que j'accorde, puis ça, c'est clair, là, la valeur que j'ai par rapport au territoire, à notre façon de le vivre, de l'animer, puis de le rendre moderne, je pense.
Ben oui, puis effectivement, on peut conclure avec ça parce que je suis. extrêmement d'accord avec tout ce que tu dis aujourd'hui parce que tu as le côté, comme tu dis, la fierté de l'avoir fait, la fierté de connaître. Parce qu'on dirait qu'il n'y a pas. C'est une compétition saine, toujours, quand on reste dans le rural, quand on reste dans les petites municipalités ou quoi que ce soit. Parce que c'est pas la compétition. Je vais au général, je dis pas que c'est même dans toutes les grandes villes, là, c'est pas ça que je dis du tout, mais tu sais, il n'y a pas le côté. Tu sais, regarde, comme on dit Nicolas, tu n'as pas un million de commerces qui se font en compétition. C'est tous des complémentaires, en général.
Ouais.
Il va y avoir quelques-uns, mais tu sais, tu as un café, tu as une pizzeria, tu as. Ben, si on compte certains deux, mais tu comprends ça. Ils ont chacun leur petite niche qui fait que tout se complémente. Tout se donne un petit coup de main. On parle de vous autres, la SADC, qui donne un coup de main à tout. Il n'y en a pas un des deux qui est meilleur. T'sais, on parle de nous autres, on parle de Moulin-Michel. On est complètement différents. Puis tu parlais tantôt un petit peu d'unir les forces de chacun. Ma blonde a souvent dit, puis une petite clin d'œil à elle, mais c'est vrai, tout le monde, il n'y a pas personne de parfait, mais elle est parfaite pour moi, je suis parfait pour elle. Dans le sens que c'est le point que je veux amener, c'est que les forces sont la même affaire. Mes forces à moi, tes forces à toi, tout seul, ça peut faire des belles choses. Les grandes choses, on n'a pas le choix. Il faut s'unir. Parce que, comme on dit tout le temps, on évolue. On ne change pas, à mon avis. On l'a dit plusieurs fois dans le podcast, mais on évolue. Ceci dit, on apprend tous les jours. Mon père, c'est une affaire qui m'a toujours dit, à chaque jour de ta vie, je veux que tu apprennes quelque chose. Puis quand on dit apprendre quelque chose, ce n'est pas apprendre une nouvelle langue, pas apprendre une nouvelle recette. T'sais. Apprends quelque chose. Apprends quelque chose sur quelqu'un. Apprends quelque chose. Apprends un nouveau mot. Apprends quelque chose sur toi. Mais apprends de quoi? Tous les jours. Ce qui veut dire qu'on a tout le temps quelque chose à apprendre. Enfin, moi, j'ai pour moi dire que quand tu arrives à des places comme on est, des gens de communauté qu'on est, qu'on laisse la diversité nous attaquer, parce que c'est pas le bon terme, attaquer, mais nous nourrir, si on peut dire. Tu sais, c'est quand on laisse la diversité, de faire comme, bon, ça, je m'y connais pas, mais j'aimerais en savoir plus. Ouais. Mais automatiquement, on vient se donner des outils. Tellement. Puis c'est ce qui fait des outils demain qui font des citoyennetés puis des milieux très tissés. On parlait tantôt d'individualisme dans les grandes métropoles, pas tout le temps. Puis je sais qu'il y en a qui vont dire, non, moi, je suis à Montréal. On ne dit pas que parce que tu es à Montréal, tu es individualiste, c'est pas ça qu'on veut dire.
Ah non, pas du tout.
C'est
hein.
Ça, c'est ça.
On a vu des solidarités de quartier extraordinaires. Non. Mais c'est sûr qu'on a parlé ce matin de ce qu'on connaissait,
exact.
De ce qui nous animait. Puis tu sais, Sébastien, c'est vraiment chouette parce qu'on a parlé tous les deux de nos parents.
Ouais.
On a parlé des racines qu'on avait, puis de ce qu'on est devenu. Fait que moi, je fais beaucoup l'analogie avec ce qu'on vient de jaser sur notre communauté. On a parlé de nos racines, puis on a parlé de ce qu'on devient.
Tout à fait. C'est, je pense que c'est ça le message. Qui était lancé aujourd'hui.
Ouais. Hey, t'es bien fin, merci.
Si, c'est
cool.
C'est non, ben le fun.
Écoute, moi, je vais boire la dernière gorgée de café, mais hey, je l'ai tiré le plus long que je pouvais parce que c'est vraiment bon.
On aurait peut-être pris un autre, mais hey, Steve, avant de conclure, les gens veulent te rejoindre, les gens veulent te poser des questions, veulent te parler, comment on fait?
Ben, le plus simple, c'est peut-être. Écoute, penses-tu vraiment que les gens vont vouloir me parler?
Ben,
je ne sais pas, mais appelez-nous à la SADC de Nicolet Bécancourt. Ben oui, vraiment. Puis allez voir notre page Facebook. Il y a tellement d'initiatives en développement durable, de mobilisation citoyenne qu'on met de l'avant, des entrepreneurs du coin. Mm-hmm. Et puis, tu sais, mettons, adopter un entrepreneur, tu sais, aller les visiter.
Oui, oui.
Et ça, c'est le plus beau des souhaits que je pourrais faire, de continuer à découvrir nos gens qui ont un grand savoir-faire et qui travaillent ensemble.
Puis tu sais, on a commencé le podcast en disant ça, le but, c'est pas de brainwasher qui que ce soit, mais ouvrez-vous les yeux un petit peu, comme tu dis, adoptez
l'entrepreneur local.
Ça va de soi pour nous autres.
Mais je pense que c'est le consommateur qui est gagnant.
Oui,
ben quand j'ai adopté, là, c'est comme ça fait un peu péjoratif en disant ils sont dans le besoin. Non, pour votre propre. Je réfléchis en même temps que je parle, là, mais tu sais, je pense que faites-vous plaisir. Je vais dire comme ça. Découvrez un entrepreneur. Hey, ça, j'aime mieux ça.
Découvrez, oui.
Ouais, découvrez un entrepreneur et faites-le découvrir.
Et voilà.
Ah, j'aime ça. Okay. On y va avec ça.
On y va avec découvrir. Ouais. Hey, Steve, ça a été un plaisir
de te parler.
On va reprendre ça, c'est sûr.
Hey, t'es vraiment cool.
Donc, tu sais, je vais laisser de toute façon toutes ces coordonnées dans le lien du podcast, donc courriel, site web, ainsi de suite, si vous voulez rejoindre. Pour ma part, ben là, nos shows sur Spotify, sur Apple Podcasts, on est facile à trouver, là, nos shows. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez votre idée par rapport à la mobilisation citoyenne, à la ruralité, gênez-vous pas, laissez des commentaires, envoyez-nous un courriel, ça va nous faire plaisir de vous lire, de vous entendre. Donc, sur ce, on vous souhaite une bonne fin de journée.
C'est bien aimable, merci.
Et on se dit à très bientôt.
Salut.
Peace. I've been in your world.